Hors-Champ avec aujourd'hui Alexandre Gauthier. Quelles sont les premières senteurs dont vous vous souvenez quand vous étiez enfant, Alexandre Gauthier ?
Peut-être le feu de bois. Le feu de bois, j'ai passé une jeunesse à camper chez les scouts, donc peut-être que c'est peut-être celle-là, cette odeur du feu de bois. Et après, celle de l'humidité du marais de la Grenouillère, de la Madeleine sous Montreuil, et où j'ai grandi, où j'ai vécu et où je vis aujourd'hui. C'est... une humidité remplie de senteurs et de fraîcheur, mais aussi grâce à ces herbes sauvages qui sont qu'on piétine tous les matins, qui sont des variétés de menthe et d'herbes sauvages à profusion qu'aujourd'hui j'utilise.
Quand avez-vous compris que les herbes au milieu desquelles vous viviez étaient importantes, non pas simplement à froisser, mais aussi peut-être à utiliser pour pouvoir un jour les déguster ?
Alors, je l'ai compris rapidement, mais j'ai pas voulu les utiliser tout de suite parce que au tout début, j'avais peur d'être dans une caricature et quelque chose qui me déplaise. Il a fallu comprendre que ce terroir qui m'enfermait un petit peu était en fin de compte un territoire et que ce territoire me donnait une liberté d'expression et surtout un ancrage. Et que, comme beaucoup d'adolescents, j'étais pas bien conscient que l'endroit où je grandissais était l'endroit où j'allais vivre demain. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Je rêvais plutôt de...
Vous vouliez partir?
Oui, comme...
Monter à Paris, comme on dit.
Oui, Paris, New York, Tokyo.
Le monde entier vous appartenait.
Appartenir, peut-être pas, mais en tout cas, on avait envie de le découvrir et puis envie de le... Bah, on sait pas trop ce qu'on cherche quand on est adolescent. Il faut vite faire un choix. Je voulais être cuisinier assez rapidement, mais cette maison, qui était celle de mon père, était pour moi, à première vue, un petit peu étroite.
Et pourquoi étroite?
Parce que petite, parce que au milieu de la campagne, parce que c'était pas une capitale, parce que c'est voilà à 7 km de la mer certes, mais en même temps dans le nord de la France et qu'il fallait pour avoir des clients comment exprimer ça surtout un peu petite mais c'est parce qu'on se rend pas compte et qu'à un moment les sirènes de la renommée sonnaient ailleurs pour d'autres maisons, d'autres choses et que les grands noms étaient rarement à la campagne.
Mais votre père vous a incité à faire la même chose que lui ?
Bah, vous savez, quand on est enfant, le père est un modèle incontournable et j'ai longtemps voulu être cuisinier. Après, j'ai abandonné cette idée et j'y suis revenu. Et à 16 ans, j'ai pris la décision ferme que je serais cuisinier. Et donc voilà. Mais je pensais pas reprendre l'affaire de mon père. C'était pas prévu. J'ai pas, voilà. Papa a eu quelques difficultés alors que j'avais 22, 23 ans et il m'a demandé de venir lui donner un coup de main. Et je me suis exécuté de façon logique et naturelle. Mais je pensais pas rester non plus à 22, 23 ans. Je pensais rester une année et demie et repartir. Et en fin de compte, je suis resté. Et j'ai compris, un an et demi après être revenu, qu'en fin de compte, c'est de cet endroit que je voulais exister, que je voulais vivre. C'est dans cet endroit que je voulais vivre, en tous les cas, et être ce que je suis. Et que le parti pris d'assumer d'être ce qu'on est chez soi était quelque chose de fort. Mais il fallait bosser et aller au bout. Donc voilà, j'y suis.
Est-ce votre père qui vous a tout appris ?
Pas du tout. J'ai travaillé avec lui. J'ai surtout vu, vous savez, c'est un métier qui est rempli de labeur, qui est rempli, qui peut être archaïque aussi. Et en tous les cas, je sais, pas juste grâce à lui, mais en travaillant dans d'autres maisons, en arrivant à la Grenouillère, je savais ce que je ne voulais pas de ce métier.
C'était quoi ce que vous ne vouliez pas ?
C'est l'ingratitude du travail quotidien, du labeur. Alors il y en a dans tous les métiers, mais à un moment donné, être enfermé dans une cuisine jour et nuit, c'est un métier où on remplit d'humidité. On démarre tôt le matin à 8h, on finit tard le soir, on a une coupure d'une heure l'après-midi, et le lendemain on recommence. Et entre deux, on a tous les soucis qu'un chef de cuisine ou aujourd'hui chef d'entreprise peut avoir, c'est que il faut s'approvisionner, il faut gérer des hommes autour de soi parce que tout seul on n'est pas bon à grand chose et qu'il faut des hommes forts, des hommes ouverts, des hommes qui progressent avec nous et qui dans le meilleur des cas ont le même projet que nous pour cette maison qui nous accueille. Et donc c'était une vraie volonté pour moi d'avancer dans cette direction Et voilà, on est le cuisinier est souvent souvent en marge de beaucoup de choses. Une vie affective compliquée, une vie sociale compliquée. On travaille quand les autres s'amusent. Et donc ça, j'avais beau le choisir à 16 ans. Voilà, travailler beaucoup, avec plaisir, mais travailler dans le bon sens, travailler en étant ce qu'on est et sans être dans la contrainte de quelque chose qu'on attend ou dans la contrainte de quelque chose qu'on espère. Juste dans le fait de pouvoir partager ce que nous sommes avec ses cuisiniers, avec notre équipe de salle, mais aussi et surtout avec nos clients et espérer qu'ils adhèrent à notre projet.
Très vite, vous êtes affranchi de la cuisine traditionnelle de votre père pour devenir un des chefs les plus inventifs de votre génération. Vous êtes très jeune. Avez-vous appris la cuisine ou est-ce que les recettes que vous avez inventées et que vous continuez à inventer proviennent justement de votre rapport à la nature à l'intérieur de laquelle vous êtes immergé?
En fin de compte, quand je suis revenu à 23 ans, pendant un an et demi, comme beaucoup de cuisiniers, vous réalisez une carte en utilisant le répertoire que vous avez appris à l'école et dans d'autres endroits. Et au bout d'un an et demi, j'ai compris que je me mordais la queue et que déjà j'étais en train de dans une répétition récurrente et que ça allait m'amener nulle part. À l'époque, je faisais venir des produits qui venaient de très loin et donc voilà.
Des produits chics.
Des produits chics, mais des produits asiatiques. Et à un moment donné, quand je déterminais ma cuisine, je disais elle était contemporaine, mais elle avait rien de contemporaine, elle était juste exotique. Parce qu'en fin de compte, j'amenais des produits que les gens ne connaissaient pas dans une cuisine.
Pour étonner, pour épater.
C'était celle qui, à ce moment-là, je croyais que c'était la direction qu'il fallait que je prenne et que dans laquelle, à ce moment-là, je me retrouvais. Et j'ai fait une table rase de tout ça et j'ai compris que pour se trouver soi-même, il fallait apprendre avant tout à désapprendre tout ce qu'on avait appris et se trouver et aller prendre le risque d'exister dans d'autres directions, mais en restant en se donnant un cadre de travail qui était ni plus ni moins que le territoire. Alors le territoire, c'est la chasse, la pêche, la culture, l'agriculture, la cueillette. Mais la cueillette, on a 7 km de la mer, donc ça peut être les salicornes, ça peut être les coques, les couteaux qu'on a sur le bord de plage, ça peut être évidemment les champignons, mais tout ça d'un seul coup, ça devient vite folklorique, donc il faut vraiment lui donner un sens propre à tout ça, et donc c'est l'idée du produit. J'aime pas cette notion de produit noble ou ce produit chic, comme vous dites, et de produit populaire. Je m'interroge beaucoup sur entre une truffe et une pomme de terre, lequel des deux nourrit le plus de monde, et lequel des deux par ça est le plus important. Et je pense que réinventer une pomme de terre dans une cuisine du quotidien, ça peut être très intéressant. C'est pas très intéressant, c'est juste, c'est pour le designer, c'est le problème d'une chaise. Le cuisinier, c'est quoi une pomme de terre? C'est pareil. Donc on avance sur ce sujet-là, et on progresse, et donc on écarte beaucoup de choses et on devient très exigeant et on avance, on progresse, on fait des erreurs et puis voilà, et on cuisine. Et on
Alors
cuisine.
C'est quoi une pomme de terre? Justement dans votre cuisine, Alexandre Gauthier, on peut voir que c'est les éléments primordiaux de notre existence que vous mettez en avant. La terre, l'air, l'eau, le feu, que la présentation de vos produits aussi est constitutive de notre désir d'appétit parce que vous allez pouvoir présenter justement une pomme de terre sur un morceau de pierre.
Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est comme un musicien ou comme un orchestre, on dispose de différentes techniques et de différents instruments, donc outils et différents produits à des saisons bien précises. Et c'est vrai que dans les pommes de terre, aujourd'hui, on peut dérouler une pomme de terre avec une mandoline et en faire, vous savez, une sorte de grand ruban, la rerouler. Par exemple, on a fait une pomme de terre au pralin, on la roule sur elle-même, on la ficelle. Comme un saucisson, si on veut, on la cuit au four vapeur, et après on la coupe. Alors tout ça, c'est de la technique, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir donner un résultat gustatif, une pomme de terre qui va être fondante, qui va être en même temps feuilletée, et qui va venir jouer avec un pralin d'amandes, de noix et de noisettes légèrement torréfiées, non sucrées, surtout évidemment, et par exemple une roquette sauvage qu'on a aujourd'hui. Et on va être dans une complexité de goût, mais évidente, et dans une direction, voilà, on réinvente une pomme de terre que tout le monde connaît, et les gens sont là, et ça ressemble à un cœur d'artichaut quand on la coupe en deux, un poireau entre deux, tout feuilleté, et on arrive à amener dans d'autres directions. Et l'idée, c'est de pouvoir faire découvrir les produits que nos clients ont au quotidien, parfois dans leurs assiettes, mais amener à contre-pied ailleurs.
Il faut détourner aussi les codes du sucré et du salé.
Mais je pense qu'il faut être très libre. On est un pays qui est rempli de certitudes et d'a priori. Et je pense que voilà, j'ai une cuisine qui est par ma formation et de souche et de racines françaises. Mais une fois qu'on a libéré ces a priori, ces certitudes, on fait tomber deux grosses barrières très importante qui laisse une place énorme à la créativité. Et à partir de ça, tout est permis dans la condition où c'est bon et beau. Et à partir de là, on peut tout se permettre.
Nous allons écouter la voix de Jacques Brel au micro de Dominique Arban qui va évoquer la notion de partage. C'est une archive du 30 juillet 1967.
Le tour de chance, c'est comme si, ayant trouvé une noisette dans le jardin de son grand-père le matin, on a quand même envie de la manger, mais en compagnie. Mmh. Soit on a envie de faire profiter cette malheureuse noisette.
Enfin. Vous avez une énorme amitié pour ces gens qui vous écoutent.
Oui. Ah oui, c'est de la tendresse. Enfin.
Oui, c'est là votre tendresse.
Oui. S'ils sont là, j'ai un profond respect pour les gens qui viennent écouter quelque chose. Quelle que soit cette chose, même la pire chose. C'est qu'il y a tellement de questions, il faut qu'ils y aillent. Même si c'est pour voir un bel âtre, ou une femme qui canonne, une jolie femme qui canonne n'importe quoi, c'est que leurs questions sont à ce niveau-là. Mmh. Et quelqu'un qui demande impose le respect. Mmh. Ah, il demande. Et ça se sent alors, c'est extraordinaire. Ça, on le sent. Il faut être fou, aveugle ou mercantile pour ne pas le voir.
Voilà, alors Jacques Brel, pour différentes raisons. D'abord pour la noisette, ensuite surtout pour le partage et évidemment pour le Nord où vous habitez et pour cette réhabilitation de ce que vous nommez, vous, Alexandre Gauthier, le territoire et cette cuisine que vous faites, cet endroit où vous proposez de la cuisine, la grenouillère, eh bien c'est un endroit de partage.
Essentiellement, je pense que le fait de se retrouver autour d'une table est un moment où on vient se reconnecter à l'autre et justement oublier cette connexion. Et le plat est limite un prétexte à venir se concentrer à cette table et pour justement discuter, échanger et essentiellement partager. On cuisine pas, on mange pas tout seul. Il y a pas d'intérêt. L'idée, c'est d'être se retrouver en famille, se retrouver entre amis et ressentir des émotions fortes que l'on garde en mémoire, une mémoire sensorielle, émotionnelle, gustative, olfactive. Et ça, c'est un travail du quotidien qui vraiment s'applique. C'est qu'on est plus dans l'idée d'un moment que l'on crée pour nos clients, dans le moment où ils ouvrent la porte, au moment où ils repartent, et que tout le monde est une seule équipe, que la personne qui va accueillir, le sourire d'un accueil et d'une sincérité, d'une bienveillance, est aussi important qu'un dessert réussi et qui ne n'effondre pas le moment du repas par une lourdeur, un sucré trop brûlant à cause de la densité de sucre. Et ben voilà, tout doit être équilibré, tout doit être cohérent. Et ça, la maison est essentielle, est importante, parce que c'est un écrin qui accueille une cuisine, mais qui accueille des hommes qui vivent autour de moi et au quotidien avec moi pour recevoir ces hommes et ces femmes qui viennent à notre rencontre.
La cuisine française a subi de nombreuses révolutions qui sont passées justement par ce qu'on a appelé la nouvelle cuisine, ce qu'on a appelé la cuisine exotique dont vous parliez tout à l'heure, la cuisine light, la cuisine des alliances de saveurs ou des contre-alliances de saveurs. Aujourd'hui, vous qui représentez la plus jeune génération des chefs étoilés, est-ce que vous pensez que vous avez épuisé, avec les 3-4 générations qui vous précèdent, la révolution des sens? Ou est-ce qu'il y a encore des choses à trouver, peut-être grâce aux découvertes des scientifiques, notamment?
Ah, vous avez raison, vous savez, comme les notes de musique, on
peut toujours. Oui, mais vous pratiquez, on a l'impression, l'art du dénouement, et du dénouement d'ailleurs.
On retire,
mais c'est-à-dire. On retire pour retrouver la saveur essentielle, la nudité de ce qu'un aliment peut nous apporter.
C'est vrai, pas d'épices, juste deux poivres différents, un poivre blanc, un poivre noir. L'idée, c'est d'être au plus près de ce que le producteur produit de son jardin, de sa ferme, et d'être au plus juste, mais en amenant notre touche de cuisinier qui est justement ce contre-pied. Je pense que c'est assez infini. La vérité, c'est de trouver la justesse et l'endroit où on sent le mieux la cuisine.
Est-ce qu'il y a un retour pour votre jeune génération à ce qu'on appelle l'ancestral, c'est-à-dire vos producteurs qui habitent le champ d'à côté, qui vont évidemment être bio, etc., etc.
Bah, je ne sais pas si on l'avait vraiment perdu, mais en tous les cas, il y a un vrai retour à ça aujourd'hui. Il y a quelque chose où le cuisinier, par sa médiatisation, est devenu un ambassadeur, un acteur économique, ce qui est mon cas local, mais aussi une morale, une morale, une conscience plutôt, une conscience morale et sur tous les champs qu'il doit toucher, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cuisiner n'importe quoi et on doit surtout être capable de le retranscrire sans, parce que c'est pour l'acquérir, acheter ce faire livrer ce produit ou aller le chercher en serrant la main de son producteur et à un moment le transformer à un point où de toute façon le produit ne s'y retrouve pas et on ne retrouve pas le produit dans l'assiette, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut vraiment apporter, c'est être, je pense que la Grenouillère était une maison de passeurs et mon travail c'est d'être un passeur entre cette terre ou ce territoire, le travail d'un producteur et mes cuisiniers et l'assiette du client. Et à un moment donné, réussir à faire concevoir toute l'importance à différents stades de maturité, quel stade, on peut travailler le produit à plein de différents stades de maturité. Et c'est vraiment important. Je pense qu'il faut, c'est notre devoir aujourd'hui. Et on est pur par la force des choses. J'ai un goût qui est assez esthétique là-dessus, qui fait que la lecture des mots, je travaille soit dans le monoproduit, soit trois produits maximum. Alors chacun a son style. Il y a des styles autant qu'il y a de cuisiniers. Après c'est une justesse, c'est une cohérence par rapport à ce que nous sommes, ce que je suis et que la maison qui m'accueille.
En tout cas, la maison, vous avez voulu la construire de manière complètement simple, pouvoir faire en sorte que le rapport à la nature soit prépondérant. Vous avez fait appel à un architecte et pas n'importe lequel. Nous allons écouter Patrick Bouchain au micro d'Alain Kruger. Il va évoquer la construction de votre maison et son histoire. C'est une archive du 7 juillet 2012.
C'est la première fois que dans un lieu de culture, un chef étoilé, Alexandre Gauthier, accepte de prendre un restaurant. Quand il est venu me voir, il m'a demandé d'avoir la même chose que le restaurant de chantier que j'avais fait à Calais. Donc ça me paraissait absurde. Et puis ensuite, en le voyant si acharné et en exprimant si facilement, peut-être même avec des images, ce qu'il voulait, je me suis dit, mais pourquoi je ne serais pas la petite main? Pourquoi ça ne serait pas justement ce que devrait être tout architecte? C'est produire un espace au service de celui qui le commande. J'ai lentement amené qu'on allait construire deux bâtiments, l'un qui serait donc la cuisine, et le même serait le restaurant. C'est-à-dire qu'on ferait un exercice où la cuisine est aussi grande que le restaurant. Vous voyez, comme au théâtre, si vous voulez, la salle de répétition est aussi grande que le plateau. Et lentement, on a entraîné le maire, l'architecte des bâtiments de France, à nous soutenir dans la construction donc de deux forges, l'une ayant le piano et l'autre ayant un feu en plein centre de la salle de restaurant où j'ai mis un brûleur de céramiste et où une très grande flamme peut à tout moment sortir et où il peut flamber. Et quand on a trouvé ces deux points-là, on a fait télescoper ces deux architectures et il y a un point de rencontre qui est un peu comme une porte quand on passe du plateau à la salle de répétition ou du plateau au public. Et l'autre chose, je voulais faire un restaurant où le cuisinier ferait lui-même sa propre vaisselle. C'est-à-dire que où on pourrait à chaque fois cuire une assiette et on ne mangerait que dans une assiette qui vous est destinée. Et on lui a fait donc non pas une vaisselle qu'il cuit à chaque fois, mais aucune assiette n'est identique. Je voulais de ne plus avoir ni nappe ni bois, d'avoir quelque chose de très souple, et peut-être manger justement sur la peau de la bête que vous mangez, quoi. Et là, on a fait des tables en cuir. Cette table est circulaire, mais elle n'est pas personnalisée. C'est-à-dire que, imaginons si je suis dans un rapport d'amitié ou un rapport amoureux, c'est pas toujours dans un face-à-face, un côte-à-côte. Et on a fait donc qu'aucune table ne soit pareille et que les tables ne déhiérarchisent le rapport et assurent peut-être le côte-à-côte, le dos-à-dos. Et on place les gens, on pourrait dire, en fonction de ce que l'on perçoit de leur personnalité ou du rapport qu'ils veulent, sur une table qui est différente.
C'est une épreuve peut-être alors de venir chez vous quand on écoute Patrick Bouchain, Alexandre Gauthier, parce que peut-être que les couples justement ils vont être dos à dos, ils vont peut-être dîner dos à dos.
Non, pas du tout.
C'est un sas de psychanalyse sauvage sous prétexte de grande cuisine.
Non, pas du tout, c'est vraiment un lieu de rencontre, c'est ce qu'explique Patrick qui est une des rencontres essentielles de ma vie, et trouver un homme qui est capable de métamorphoser une ferme du XVIIe siècle et de la ramener dans le XXIe siècle. En disant humblement dans cette maison, je ne sais pas ce qui est d'Alexandre, ce qui est de moi, et d'être capable de l'avoir projeté comme ça avec autant de cœur. Patrick définit son architecture de haute qualité humaine, et je pense que c'est un point commun que j'ai avec ma cuisine, et ce goût de l'homme, ce goût de l'autre que nous mettons dans l'assiette et que nous mettons dans cette maison. Et c'est vraiment on travaille dans les mêmes conditions que nous recevons nos clients, et ça c'est quelque chose de, alors évidemment confortable, mais surtout d'essentiel, justement.
En tout cas, dans le très beau livre que vous avez publié, qui est à la fois poétique et en même temps de très haute cuisine, on peut se rendre compte, peut-être pas, mais en tout cas, on a la perception que les espaces qui vous ont été alloués par l'architecte à l'intérieur de ce lieu, les espaces de travail pour vous et votre équipe, sont aussi importants que ceux dévolus aux clients.
Voilà.
Et ça, c'est rare, effectivement, dans la cuisine française.
Vous avez raison. Bah, ça fait partie des luxes qu'on a aussi à la campagne, hein, d'être en province. On a de la place, mais cependant, sans client, il n'y a pas de cuisinier. Sans cuisinier, il n'y a pas de client. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on y passe notre vie. Je passe plus de temps avec mes équipes qu'avec ma femme et mon fils. Et eux, de la même façon, ils passent plus de temps avec moi qu'avec leur compagne. Et donc, c'est vraiment important d'être dans cette cohérence et ce goût de l'autre et d'exister pour un client et de comprendre pour qui on cuisine. Je pense qu'il y a un rapport différent quand vous faites un plat pour un bon table 2 et que on sait pas qui est à cette table. Aujourd'hui, les clients, on les voit passer, ils viennent nous saluer et c'est un vrai confort, c'est un vrai luxe.
Et vous avez démultiplié votre restaurant.
Ah, alors, non, c'est-à-dire que...
chaque client... La possibilité de manger en ayant l'art de tous les goûts.
De tous les goûts, c'est-à-dire qu'on s'intéresse. Donc on a deux annexes après la grenouillère. Ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à l'extraordinaire, au quotidien. Pas à toutes les bourses. Alors par la force des choses, d'accord, mais surtout.
C'est pas tous les jours fête, mais on peut.
Mais on mange tous les jours. On mange tous les jours. Et le travail du cuisinier, c'est de faire à manger pour aussi tous les jours. Et que la grenouille est peut-être un endroit où, justement, on est dans l'exception, on est dans l'extraordinaire. Et on travaille dans ce sens, avec 12 cuisiniers derrière moi, une grosse équipe de 8 personnes en salle. Dans les deux autres annexes, on s'intéresse au quotidien, à cette pause déjeuner du midi, mais aussi qui, deux fois, ce quotidien est aussi l'extraordinaire de certaines personnes. Parce que la grenouillère, ils considèrent que ça peut pas être pour eux. Et donc, ça, c'est pas pour eux. Mais, bien sûr, coup, ils avancent. Et puis, il y a une première marche. Ils vont à Froggies. La deuxième marche, anecdote, qui est la cuisine de mémoire, qui est dédiée à celle que me faisait mon père il y a 30 ans à la grenouillère. Et puis après, il y a la grenouillère. Et d'un seul coup, parce que vous savez, une cuisine contemporaine, c'est quelque chose comme ça, une sorte de nébuleuse, loin, c'est pas pour nous. Et alors que, aujourd'hui, moi, je cuisine pour tout le monde, mais je cuisine aussi pour les gens qui m'ont suivi. Donc, c'est gens qui sont de ma région, les locaux. La grenouillère attire du monde entier aujourd'hui. Mais on a aussi beaucoup de tables de gens qui sont des locaux et qui viennent à notre rencontre de façon régulière. Et c'est eux qui m'ont vu grandir et qui ont fait que je suis toujours là aujourd'hui.
Alors, en ce moment, c'est l'été. Dans tous les marchés, on trouve des melons. Je vous pose une colle. Qu'est-ce que vous faites avec le melon? On en a déjà ras-le-bol. Au début, on est content, et puis après, on sait plus.
On sait plus comment
tout.
Le faire.
Oui.
Ah oui, c'est sûr.
On n'ose plus.
Sorti du porto du jambon de Parme. On fait des tranches très fines, et on le rouge avec un tourteau, une chair de tourteau décortiquée, et qu'on vient légèrement assaisonner, et on vient l'enrouler. Alors, on pourrait dire comme un maquis, vous voyez, un petit peu, mais avec des goûts bien de chez nous. Alors, les tourteaux dans le nord de la France.
Ça, vous savez le faire, mais pas moi, hein.
Ah, bah, c'est pour ça que ça reste mon métier. C'est que si tout le monde, si on faisait la cuisine que vous pouvez faire chez vous tous les jours, je m'inquiéterais. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir amener des produits que vous connaissez et de l'amener par la technique, par l'envie, par une vision différente, ce produit dans une autre direction. Alors, on travaille là-dessus. Après, on travaille sur le blanc d'œuf. On fait des rouleaux, on taille dedans. La texture.
Et on met le melon.
Non, mais la découpe est très importante du melon. Ça veut dire que si on taille fin, si on taille gros, si on taille épais, voilà, on peut l'assaisonner. Hein. Le melon, on peut le saler, c'est incroyable. On peut le vinaigrer et après on peut le sucrer. Mais si on le sale un minimum, il développe des arômes juste incroyables. Donc, il suffit de prendre soit la menthe qui est à notre disposition à la grenouillère, soit une verveine. Et d'un seul coup, là, on a des verveines en ce moment. Juste une vinaigrette à la verveine et qu'on met dessus avec. Je sais pas, on pourrait dire juste des coquillages crus, melon, coque crue ou coque juste ouverte. Vous savez, 1 cm d'eau, les coques qu'on a rincées, 1 cm d'eau douce dans une poêle, on fait bouillir l'eau, on jette les coques. Quand elles s'ouvrent, qu'elles s'ouvrent comme ça, tac, 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 dans tous les sens, on les ramasse, et on peut, soit on les décortique, soit on les laisse dedans, et on vient mettre le melon, et d'un seul coup, le fruité de la coque vient s'ajouter au fruité du melon, mais l'iode de la coque va développer les arômes du melon. Après, on y jette dessus quelques herbes qui nous font plaisir, un thym citron que tout le monde peut avoir chez soi, alors surtout un thym frais, hein, pas du tout un thym sec parce qu'il y a rien de pire, et puis voilà un romarin.
Pourquoi c'est terrible le thym sec?
Non, c'est pas terrible, mais c'est une poussière. Vous voyez, il est sec alors qu'on peut l'avoir. Voilà, il est desséché de l'essentiel peut-être. Vous voyez, pour moi, donc quand on a la chance d'avoir un jardin ou un pot de voilà une au balcon et on peut avoir un peu de thym, c'est facile. Donc voilà un thym, mais après des herbes qu'on a taillées au ciseau par dessus, et c'est juste génial.
Il y a des jours avec et des jours sans.
Bah, ça fait partie de, même j'aime pas ce mot, mais la création. C'est-à-dire qu'on aimerait bien que ça tombe toujours du ciel, mais c'est pas toujours le cas, et qu'il y a des produits qu'on a pour 10 jours, et puis en fin de compte,
on peut les manquer.
On peut les avoir que pour 2 jours, parce que voilà, et donc il faut, ou des fois on a 40 portions d'un produit, puis des fois on en a 150. Alors 150, je fais 3 services, vous voyez, et ben 40, je fais un service. Donc il faut s'adapter, faut savoir s'interroger et tout le temps être sur le qui-vive, tout le temps être voilà en alerte, mais ça c'est le fait d'avoir envie d'être toujours, d'aller plus loin, et le fait de, je pense à des amis artistes qui sont vrais toujours, pareil, il faut demain, la page blanche, je sais pas, il faut la remplir et il faut sauter à pieds joints.
Page blanche, Alexandre Gauthier, vous écrivez vos recettes ou vous les communiquez pendant que vous les élaborez aux personnes qui sont autour de vous dans la cuisine?
Je pense que je les ai en bouche avant de les cuisiner. On a les produits qu'on a à disposition, on a tout ça, et ces produits, on s'est dit, cette année, qu'est-ce qu'on en fait? Tous les ans, on se dit, voilà, j'ai des fraises, j'ai des melons, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? On est en bouche, on sait ce qui marche, ce qui marche pas, et à partir de là, c'est, je tends à dire que le cuisinier, comme pour le parfumeur, est un nez, nous on est plutôt des palais, et à partir de là, sans avoir testé, quand je mets en bouche, c'est souvent pour retrouver l'équilibre et finaliser, mais on sait dans quelle direction part le plat avant. Alors à la fin, on fait des croquis, on note des idées, des produits dont on n'a pas forcément l'idée tout le temps. Il faut aussi qu'on aille sourcer ces produits qu'on a oubliés, qu'on aille à la rencontre des producteurs, des apiculteurs, tous ces gens qui sont autour de nous, pour réussir à se dire, mais cette année j'ai du pollen, je vais travailler le pollen, et le pollen est un produit incroyable et aussi intéressant que le melon, et donc voilà, et qu'un melon pollen, ça marcherait très bien, vous voyez, par exemple.
Mais alors on va se quitter sur un des derniers desserts que vous avez inventé.
Écoutez, on est sur le pollen, on fait une glace de pollen et pistil de pissenlit avec une nougatine qui n'en est pas une, de popcorn, miel et pollen. Voilà. Et ça fonctionne très très bien.
Combien de temps pour le faire, ce dessert?
Oh, vous savez, on compte pas, vous pouvez pas le faire à la maison. Hein. Il y a du monde derrière, donc l'important c'est combien de temps on met pour le manger. Pas longtemps. Pas longtemps.
Mais beaucoup pour le préparer.
Et beaucoup pour le préparer. Voilà.
Merci beaucoup, Alexandre.
Merci Gauthier. À vous. Merci.
Merci Alexandre Gauthier. Je rappelle que le très beau livre qui vous est consacré, dans lequel vous avez écrit vos propres recettes, et j'incite les auditeurs à essayer de faire vos recettes, mais j'ai essayé, j'ai pas réussi, est publié aux éditions La Martinière. Merci à l'équipe de Hors-Champ, merci à Stéphane Desmond, merci à Véronique Villa, Élodie Royer, Corinne Amard, Samuel Bernard. Vous écoutez France Culture.